VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
13h à Abidjan, 14h à N'Djamena. Bienvenue à notre journal. En RDC, les jeunes de l'organisation Lucha, lutte pour le changement, disent avoir demandé au président Joseph Kabila lors d'une rencontre face à face de ne pas se représenter pour un troisième mandat. 46 d'entre eux ont été reçus par le chef de l'État congolais jeudi à Goma, capitale de la province du Nord Kivu. Ils ont également évoqué la situation à Beni, théâtre de massacres répétés dont le dernier en date s'est produit le week-end dernier avec plus de 50 morts. Luc Nkulula, membre de Lucha, donne des détails sur les propos du président Kabila.
Il nous a quand même promis qu'il y aura des élections, mais il ne nous a pas dit quand. Et nous avons insisté que c'est cette année que nous voulons des élections. Une passation civilisée entre un président sortant et un président entrant. Et il nous donne un délai de 48 heures pour commencer déjà à nous donner des réponses consistantes sur les questions que nous lui avons posées.
Luc Nkulula, membre de la Lucha, la lutte pour le changement à Goma, au nord Kivu en RDC. L'Afrique australe a besoin d'une aide humanitaire urgente pour éviter une nouvelle année de pénurie alimentaire en raison des inondations qui menacent désormais la région dans la foulée d'une grande sécheresse. Tel est l'avertissement lancé par plusieurs agences de l'ONU. Jean-Roger Bion.
Selon le programme alimentaire mondial, 18 millions de personnes ont actuellement besoin d'aide dans le sud de l'Afrique. Cette année, un phénomène météorologique, la Niña, pourrait s'abattre sur la région, apportant de fortes pluies et donc de potentielles inondations. La Niña apporte de bonnes et de mauvaises nouvelles. La bonne, c'est qu'on va recevoir des précipitations supérieures à la moyenne qui sont normalement synonymes de bonnes récoltes pour nos fermiers, a expliqué à l'AFP Lewis Hove, coordinateur des questions agricoles pour la FAO, lors d'une réunion à Johannesburg. Producteurs de matières premières, une grande partie des pays d'Afrique australe, comme la Zambie, sont en outre touchés par la chute des cours au niveau mondial. La communauté internationale doit s'impliquer et apporter son aide, a exhorté Chris Nicoy, patron du PAM pour l'Afrique australe, qui souffre depuis 2 ans des effets dévastateurs d'El Niño, ce courant climatique qui bouleverse le rythme des pluies et qui a apporté une grave sécheresse sur la région.
Afrique de l'Ouest maintenant, au Nigeria, le groupe rebelle des Vengeurs du Delta du Niger menace de déclarer l'indépendance de la région du Delta, une zone riche en pétrole. Chérubin Dorsil.
Les Vengeurs du Delta du Niger, NDA, accusent le président Muhammadu Buhari de conduire le Nigeria à la faillite et d'être un agent de division. Dans un communiqué publié hier jeudi, le nouveau groupe armé lance un ultimatum à Abuja pour que le gouvernement améliore sa gestion, sinon une déclaration d'indépendance interviendra le 1er octobre. Avant la NDA, d'autres groupes rebelles ont toujours réclamé une meilleure répartition des richesses du pays. Le Nigeria traverse une période difficile, notamment à cause de la chute des prix du brut. 70% des revenus de l'État nigérian proviennent du pétrole. Le pays s'est fait dépasser par l'Angola dans l'exportation de l'or noir et a rendu à l'Afrique du Sud l'honneur d'être la première économie du continent. La compagnie pétrolière nationale NNPC et de nombreuses multinationales ont des installations pétrolières dans la région du Delta du Niger, où elles sont la cible d'attaques des NDA depuis février de cette année.
Au Niger voisin, la justice militaire a rejeté ce matin les demandes de mise en liberté provisoire de la dizaine de civils impliqués dans la tentative de coup d'État de décembre 2015 et sous les verrous depuis lors, confirmant ainsi les ordonnances du juge en charge de l'instruction. Et puis au Mali, libération hier soir du chroniqueur Ras Bass, un chroniqueur radio arrêté cette semaine à Bamako. Libération au lendemain de violents heurts entre ses partisans et les forces de l'ordre. Selon le parquet, Ras Bass a été remis en liberté par le juge qui s'occupe de son dossier, mais l'enquête concernant ses propos d'outrage aux forces armées du Mali continue, selon notre correspondant à Bamako, Kassim Traoré.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
Côte d'Ivoire, il y a 10 ans, jour pour jour, le bateau Proboko a déversé ses déchets toxiques dans la région d'Abidjan. Le scandale environnemental a fait des milliers de malades et causé la mort de 17 personnes en quelques semaines, selon un rapport du gouvernement à l'époque. Des associations de victimes ont dénoncé aujourd'hui le fait que la dépollution des sites contaminés n'est pas complète. Autre problème, on a observé depuis le déversement une prolifération d'associations de victimes dont certains responsables se sont enrichis en détournant les fonds d'indemnisation. Au micro de Bagassikoura, Claude Gourou, président de la Coordination nationale des victimes des déchets toxiques d'Abidjan.
Nous pensons que ça a été un scandale qui n'avait jamais existé dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, mais un scandale chimique de cette nature-là n'avait jamais prévalu dans ce pays. Et les dégâts que cela a causés, surtout quand nous observons la façon dont le produit a été répandu dans tout le district d'Abidjan, dans toutes les 10 communes pratiquement, de la ville d'Abidjan, nous pensons que c'était un grand scandale.
10 ans après le Probokoala, cet incident n'est pas seulement un scandale environnemental, mais c'est aussi un scandale financier.
Nous pensons que c'est un double scandale, dans la mesure où aujourd'hui, les victimes n'ont pas été véritablement prises en compte dans l'indemnisation pour tous ceux qui ont été soumis au mal dû à l'inhalation ou au toucher de ces produits toxiques. C'est pourquoi nous poursuivons 10 ans après notre combat. Le combat-là de prendre en compte l'intérêt des victimes.
Mais vous-même, vous avez été mis en cause pour avoir détourné l'argent qui était destiné aux victimes.
Effectivement, il y a eu cet épisode en Djemé. Et comme nous sommes en des procédures, je pense que judiciaires ont permis de clarifier les choses à ce niveau-là. Et donc, nous ne revenons pas sur un individu qui avait certainement porté plainte en son temps. Je pense que cela a été réglé par nos avocats, mais par la justice ivoirienne. Et nous en tenons à ce que la justice a décidé. Et l'essentiel pour nous, c'est de poursuivre notre combat et ne pas répondre à tout ce qui se fait, ça et là, en termes de dénonciation sans fondement, mais pour mettre à mal le travail que nous sommes en train de faire.
Alors, beaucoup pensent, même s'il y a la responsabilité de Trafigura, peut-être aussi la responsabilité de l'État ivoirien, ils pensent que les responsables d'associations comme vous-même, vous n'avez pas joué franc jeu.
Non, d'abord, il faut évaluer ces indemnisations. Avant de parler des indemnisations qui n'arrivent pas, est-ce qu'on est d'accord que les montants qui ont été alloués aux victimes ne sont pas des montants qui reflètent la réalité? Le nombre de personnes qui ont été prises en compte n'est pas le nombre de personnes qui sont malades en réalité. C'est cela qu'il faut réparer.
Oui, et si ces montants ne reflètent pas la réalité, est-ce que ces montants sont arrivés à leur destination?
Ceux qui le disent peuvent avoir leur raison de pouvoir parler. Mais pour nous, en ce qui nous concerne, nous pensons que nous n'avons pas été auteurs de détournement quelconque et nous pensons que l'histoire de ce qui s'est passé ne peut pas se résumer ou on ne peut pas se barricader derrière une question d'un prétendu détournement des fonds alloués aux victimes pour ne pas voir la réalité des faits en Côte d'Ivoire.
Claude Gourou, président de la Coordination nationale des victimes des déchets toxiques d'Abidjan. Conflit en Syrie, l'émissaire onusien pour la Syrie se félicite de la volonté de la Russie de contribuer à l'établissement d'une trêve hebdomadaire de 48 heures pour faciliter l'acheminement de l'aide humanitaire dans la ville assiégée d'Alep. Lionel Gaïma.
Cela fait quelque temps déjà que Stéphane de Mistura appelait à un tel cessez-le-feu qui permettait l'envoi de l'aide mais aussi les évacuations médicales à partir des zones d'Alep occupées par les rebelles et celles sous le contrôle des troupes syriennes. L'émissaire onusien a fait savoir que l'équipe humanitaire de l'ONU va se mobiliser pour faire face aux défis. Le plan est de travailler collectivement sur les détails opérationnels de manière à livrer l'aide humanitaire dès que possible, a expliqué Stéphane de Mistura. D'un côté, la Russie devra veiller à ce que son allié syrien adhère à la trêve et de l'autre, les États-Unis et les puissances régionales devront obtenir le même engagement de la part de l'opposition armée a tenu à souligner l'émissaire de l'ONU pour la Syrie. Pour l'heure, plus de 2 millions d'habitants d'Alep manquent de tout. Une situation qui ne cesse d'empirer du fait de l'intensification des combats.
Campagne présidentielle américaine 2016, le candidat républicain Donald Trump a fait une confession inhabituelle hier. Il regrette d'avoir offensé des gens avec des paroles. Jean-Roger Bion.
Sometimes, in the heat of debate and speaking on a multitude of issues, you don't choose the right words.
Parfois, dans le feu de l'action, dans un débat ou en s'exprimant sur de multiples sujets, on ne choisit pas les bons mots ou on dit la mauvaise chose, a déclaré le candidat républicain lors d'une réunion publique à Charlotte, en Caroline du Nord. Cela m'est arrivé, a-t-il poursuivi, faisant alors rire et applaudir ses partisans. Et vous n'êtes pas obligé de me croire, mais je regrette, a ensuite admis Donald Trump. Je le regrette en particulier lorsque j'ai pu blesser des gens personnellement, a-t-il dit avant d'assurer toutefois à ses partisans, je vous dirai toujours la vérité. Sur le fond, Donald Trump a renouvelé avec force son appel aux minorités américaines, en particulier les Noirs. Je ne me reposerai pas tant que les enfants de ce pays, quelle que soit leur couleur, fassent pleinement partie du rêve américain, a-t-il déclaré. Si les électeurs noirs donnaient sa chance à Donald Trump en votant pour moi, le résultat sera incroyable pour eux, a-t-il promis. Qu'avez-vous à perdre en essayant quelque chose de nouveau, tout en gardant le fond de son message? Mur avec le Mexique, verrou migratoire, protectionnisme commercial, le républicain s'est présenté comme un agent du changement par rapport à sa rivale démocrate, incarnation de l'establishment et protectrice des riches et des puissants. Hillary Clinton et le Parti démocrate prennent le vote noir pour acquis, a-t-il dit. Il est temps de rompre avec les échecs du passé.
Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.